journal, Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour.
Ils n'ont pas quitté les Républicains, mais s'affirment globalement d'accord avec le gouvernement. 72 maires et élus locaux LR signent une tribune commune en disant souhaiter la réussite d'Emmanuel Macron. Mauvaise idée pour le parti qui appelle à la refondation d'une droite moderne et élargie. La plus grosse manifestation jamais vue à Hong Kong. Des dizaines de milliers de manifestants protestent contre le projet des autorités d'autoriser les extraditions vers la Chine. Projet liberticide pour la population de l'ex-enclave britannique. Dans ce journal également, c'était il y a un an le sommet historique de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Depuis cette date, rien ou quasiment rien. Au grand regret des Sud-Coréens, c'est le droit de suite de ce dimanche 13h. Une marche des fiertés en banlieue de Paris, c'est une première. Le jour même, Wacked Up fête ses 30 ans de combat. Nadal en quête d'un 12e titre à Roland-Garros, mais il devra battre le tombeur de Djokovic, l'Autrichien Thiem. Et puis des livres de l'évasion des voyages, c'est le festival des étonnants voyageurs à Saint-Malo jusqu'à demain soir.
France Inter.
Ils sont 72 maires, présidents de conseils départementaux, élus locaux de droite et du centre, et ils disent souhaiter la réussite d'Emmanuel Macron. Dans une tribune publiée sur le site du journal du dimanche, ils prennent acte de la déconfiture des Républicains aux européennes et s'affirment globalement en phase avec le gouvernement d'Édouard Philippe. Parmi eux, notamment les maires d'Angers, d'Orléans, de Nancy, d'Amiens, de Tours, ou encore le président du conseil départemental du Morbihan, François Goulard. Il était ce matin l'invité de France Info.
Nous faisons un constat, c'est que les réformes engagées par ce gouvernement vont dans l'ensemble dans le bon sens. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec tout, mais n'est-on jamais avec tout ce que fait un gouvernement. Et surtout, il y a des réformes à venir qui sont importantes. Je pense aux retraites, je pense à l'assurance chômage. Et il est nécessaire pour notre pays que le gouvernement réussisse. Aujourd'hui, bon, la conjoncture politique a changé. Les Républicains ne représentent qu'une toute petite minorité de l'opinion. Il est difficile dans ces conditions de prétendre à être une alternative ou un parti de gouvernement. Et encore une fois, par honnêteté intellectuelle, nous disons tout simplement que globalement, nous sommes d'accord avec le gouvernement. Il serait dramatique qu'il échoue, tout simplement parce que aujourd'hui, la seule alternative, c'est le Rassemblement national. Et ça, ce serait une véritable catastrophe pour notre pays.
Une fronde qui pourrait compliquer encore la situation des Républicains dans la prochaine campagne des municipales. Pour l'instant, le parti qui doit désigner en octobre prochain le successeur de Laurent Wauquiez fait mine de ne pas s'en inquiéter, à l'image de son trésorier, député du Pas-de-Calais, Daniel Fasquel.
Dans cette liste, il y a quand même beaucoup d'élus qui avaient déjà pris leur distance avec les Républicains. Le trésorier national, d'ailleurs, faut vous dire que la plupart d'entre eux ne payaient plus leurs cotisations depuis très longtemps, donc ils n'ont fait qu'officialiser leur position. Nous sommes une force d'opposition, mais une force d'opposition positive, constructive, et on sera plus efficace si on veut le succès du pays, dans une opposition qui obligera M. Macron à bouger sur un certain nombre de points, plutôt qu'à être une armée de béni-oui-oui, ce que souhaite finalement le gouvernement. Beaucoup d'entre eux voulaient le départ de Laurent Wauquiez, et avouez que c'est quand même étrange, alors que Laurent Wauquiez s'en va, qu'ils, pour certains, officialisent leur départ des Républicains, alors que justement, tout est à reconstruire dans notre famille politique. Et le pays a besoin, en dehors des forces que représentent En Marche et Madame Le Pen, d'une droite et d'un centre qui soit demain une alternative possible pour les Français.
Voilà, présenter une alternative aux Français, c'est aussi ce que propose Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui vient de quitter les Républicains tout en restant dans l'opposition. La seule solution pour elle, elle l'a dit à l'instant sur LCI, c'est de construire et d'opposer à Emmanuel Macron une droite moderne et élargie au centre. Du côté des Verts, un maire écolo à Paris, c'est le rêve de Yannick Jadot qui le dit aux Parisiens dimanche. Il veut une écologie aimable qui nous réconcilie, pas d'une écologie qui brutalise, message adressé bien sûr à Anne Hidalgo. Pour que Paris soit une ville verte, ajoute le leader d'Europe Écologie Les Verts, il faut un maire écolo. En attendant, de l'autre côté du Rhin cette fois, ce ne sont pas aux mairies que pensent les écologistes allemands, dont le score a été doublé aux dernières européennes. Les Grünen sont aujourd'hui en tête de tous les sondages et l'hypothèse qu'ils accèdent un jour à la chancellerie prend de la consistance. David Philippot à Berlin.
C'est un duo qui dirige le Parti Vert avec une répartition des rôles bien établie. Une femme, Annalena Baerbock, 38 ans, cette mère de deux enfants, réussit le tour de force de canaliser les courants souvent forts d'un mouvement historiquement divisé. L'homme, c'est Robert Habeck. Il incarne la figure de proue, barbe de trois jours et volontiers charmeur. L'écrivain philosophe fait la tournée des médias. Il dispute à Angela Merkel la première place de personnalité politique préférée des Allemands. L'un des deux se présentera un jour à la succession de la chancelière. Pour l'instant, ce duo complémentaire veut encore renforcer la crédibilité d'un parti solide sur ses positions, en phase avec l'air du temps, avec l'inquiétude climatique des Allemands, un parti ancré au centre du jeu politique, capable, il l'a prouvé au niveau régional, de gouverner avec la droite et avec la gauche, avec les conservateurs et les sociaux-démocrates, les deux grands partis en crise, ceux dont les Verts profitent. Berlin, David Philippot pour France Inter.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decaen.
Contre les extraditions vers la Chine, c'est ce qui s'appelle une manifestation monstre. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Hong Kong ce matin, c'est l'après-midi à Hong Kong, où la population de l'ex-enclave britannique s'inquiète d'un projet des autorités pro-Pékin, projet jugé liberticide. Florence de Changy nous appelle de Hong Kong.
Le point le plus important pour commencer, c'est cette participation record. On parlait il y a déjà une heure ou deux de 700 000 personnes sur 7 millions d'habitants qui sont à Hong Kong, donc c'est de loin la plus grande manifestation jamais vue à Hong Kong depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Une marche extrêmement pacifique, bienveillante, il y a toutes les générations et toutes les classes sociales, il y a des bébés, il y a des gens en chaise roulante. Bien sûr, on ne connaît pas encore le chiffre final. On parle même, certains espèrent que ce soit 1 million, puisque la plus grande manifestation qui a eu lieu à Hong Kong par le passé, c'était 500 000 personnes en 2003, et ça avait forcé le gouvernement à renoncer à l'article 23 à l'époque. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le message est puissant, impossible à ignorer pour la chef de l'exécutif et pour les parlementaires qui doivent discuter donc de cette loi mercredi au Parlement.
Florence de Changy à Hong Kong avec les difficultés techniques. Vu le monde qu'il y a ce matin dans les rues de l'ex-enclave. Au Kazakhstan, pas loin de là, des manifestations qui tournent mal en pleine élection présidentielle. Des centaines de manifestants ont été arrêtés ce matin dans les deux premières villes du pays, notamment la capitale Nur-Sultan, ex-Astana. Dans cette ex-république soviétique d'Asie centrale se tient aujourd'hui la première présidentielle sans Nazarbayev, le président élu sans discontinuer depuis 91, avant de démissionner en mars dernier, mais il n'y a aucun suspense. Le président par intérim désigné par le parti au pouvoir est quasiment assuré de l'emporter. C'était il y a un an, le 12 juin 2018, un sommet historique réunissait à Singapour Donald Trump et Kim Jong-un, la toute première rencontre d'un président américain et d'un leader suprême de Corée du Nord. Le sommet avait soulevé beaucoup d'espoir en Corée du Sud, où le rêve de réunification, en tout cas de paix, reste fort évidemment. Patatras, un deuxième sommet au Vietnam en février dernier est venu doucher les espérances. Les deux chefs d'État s'étant séparés cette fois sur un constat de désaccord. Et aujourd'hui, si les Sud-Coréens sont désappointés, bien sûr, ils veulent encore y croire. C'est le droit de suite de ce journal. Frédéric Ojardias à Séoul.
Un an après le sommet historique de Singapour, rien ne va plus. Le régime nord-coréen a tiré des missiles balistiques, il refuse de parler avec le Sud. La deuxième rencontre Kim-Trump en février a été un échec. Réaction dans les rues de Séoul.
Je pense que la rencontre de Singapour n'a pas été inutile. Elle a été un pas significatif en direction d'un objectif important, la paix. Les Coréens, du Nord comme du Sud, avaient beaucoup d'attentes après le premier sommet Kim-Trump. Mais il n'y a pas eu de résultats tangibles depuis. On est tous déçus.
Je pense que c'est trop tôt pour dire si le sommet est un succès ou un échec. Parce que c'est impossible de résoudre la question nucléaire en seulement un an.
Point de vue partagé par Ko Myung-hoon, chercheur et spécialiste de la Corée du Nord, à l'Institut Hassan à Séoul.
Même si les négociations sont dans l'impasse, Corée du Nord et États-Unis continuent de se parler. Et le Nord ne s'est pas livré à de provocations majeures depuis Singapour, en dehors des tirs de missiles en mai. Côté négatif, il avait été prévu lors du sommet que des négociateurs des deux camps se rencontrent pour parvenir à un plan conjoint pour dénucléariser complètement la Corée du Nord. Mais aucun progrès n'a été accompli depuis.
La Corée du Sud, elle, a justement besoin de progrès sur la question nucléaire pour améliorer ses relations avec le Nord. Elle souhaite donc un troisième sommet Trump-Kim, mais une telle rencontre semble aujourd'hui très incertaine. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Invité de ce droit de suite, Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la Corée du Nord, bonjour.
Bonjour.
Alors cette rencontre de Singapour il y a un an n'a pas été inutile selon les Coréens, on vient de l'entendre. On a quand même l'impression du contraire vu d'ici.
Alors elle n'avait pas été inutile à l'époque puisque le pari, tant de Donald Trump qu'auparavant celui du président sud-coréen, c'était que pour avancer sur la question tant de la paix que de la dénucléarisation de la Corée du Nord, il fallait qu'il y ait des rencontres au plus haut niveau, c'est-à-dire avec le dirigeant nord-coréen. Alors le sommet de Singapour a permis de fixer quatre objectifs dans les négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord, la dénucléarisation, mais aussi l'établissement de nouvelles relations entre les deux pays, la fin de la guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord, puisqu'il n'y a toujours pas de traité de paix qui met un terme définitif à la guerre de Corée, et puis un quatrième point sur la question des restes de soldats américains qui sont encore en Corée du Nord. Alors, il n'y a pas eu d'avancée majeure sur la question de la dénucléarisation, mais en tout cas, le sommet de Singapour n'avait pas été inutile.
Alors, sur la dénucléarisation, on ne parle pas vraiment de la même chose, en fait, de part et d'autre. Les Américains visent la Corée du Nord exclusivement, mais Pyongyang demande une dénucléarisation de toute la péninsule.
Alors, il y a un vrai problème, en réalité, d'ambiguïté stratégique du côté de la Corée du Nord, puisque le pays ne définit généralement pas les termes clés qu'il utilise, que ce soit la dénucléarisation, mais aussi plus largement la politique hostile des États-Unis, ou bien même les menaces nucléaires, un terme qui est récurrent dans la rhétorique nord-coréenne. Or, ce manque de définition précise est un véritable problème pour les négociateurs américains. C'est un premier problème fondamental. Le deuxième problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas eu d'avancée sur les négociations et que pendant ce temps-là, l'arsenal nord-coréen, le programme de recherche nord-coréen, tant sur la question balistique que sur la question nucléaire, continue de progresser.
Et puis avant toute chose, les Coréens demandent la levée des sanctions économiques, ce qui est évidemment inacceptable pour les Américains, tant qu'aucun geste de bonne volonté n'aura été fait.
Alors, il faut bien comprendre le pourquoi de ces sanctions internationales. Rappelons que ce ne sont pas des sanctions américaines, mais des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc des sanctions internationales. L'objectif de ces sanctions, il est de ramener la Corée du Nord à la table des négociations et d'augmenter pour le pays le coût de son programme nucléaire et balistique. Alors, la Corée du Nord demande effectivement la levée des sanctions, notamment les sanctions économiques. Et côté américain, mais aussi côté européen, on ne peut pas s'y faire pour une raison simple, c'est que lever des sanctions économiques sans atteindre un objectif même partiel de dénucléarisation reviendrait à légitimer le programme nucléaire nord-coréen, enverrait un message extrêmement négatif à de potentiels pays qui chercheraient à se doter de l'arme nucléaire, et tout cela dans un contexte très particulier, puisqu'en 2020, il y aura ce qu'on appelle la conférence de révision du traité de non-prolifération, un traité majeur pour garantir une stabilité et garantir la non-prolifération nucléaire.
Merci beaucoup Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci d'avoir été l'invité de ce Droit de Suite.
Merci.
Changer l'image des banlieues, c'est l'objectif que se sont donné les organisateurs de la première marche des fiertés tout à l'heure en Seine-Saint-Denis. Des étudiants pour la plupart qui voudraient casser l'idée selon laquelle les banlieues seraient LGBT-phobes. Pour l'association Saint-Denis Ville au cœur, à l'origine de cette guépra inédite, lutter contre l'homophobie, c'est aussi lutter contre la stigmatisation des banlieues. En bonne place dans le cortège qui partira à 14h30 du centre-ville, l'un des symboles de la lutte contre les discriminations et contre le SIDA, l'association ACT UP, qui fête aujourd'hui ses 30 ans, célèbre pour ses actions coup de poing. L'association, qui s'est faite aujourd'hui plus discrète, n'en reste pas moins active. Son président, Marc-Antoine Bartoli, au téléphone de Luc Chemlard.
Il est clair qu'une association comme ACT UP doit s'adapter. Les rapports de force ont changé, il n'y a plus de coups d'éclat, d'actions très impactantes comme dans les années 80, puisque la société a changé et je pense que la société ne serait plus attentive à ce genre d'action qui marchait très bien à l'époque. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très facile de faire du buzz et c'est très facile d'être vu. Et une association comme ACT UP, qui a créé beaucoup d'outils, d'actions, aujourd'hui pas mal d'assauts les reprennent. Et nous, du coup, ça pousse ACT UP Paris à créer d'autres modes d'action, d'autres créations de moments militants dans des manifs ou dans des créations de plaidoyer. Alors que le but de l'association ne changera jamais. Ce sera toujours la lutte contre le sida et la défense des personnes discriminées et oppressées.
Voilà, ACT UP qui sera donc tout à l'heure dans la marche des fiertés de Saint-Denis. Les 30 ans d'ACT UP, dossier complet à consulter sur franceinter.fr. En sport, un match à oublier pour les Bleus à côté de la plaque hier soir en Turquie. Battu 2-0, les champions du monde méconnaissables sont maintenant deuxièmes de leur groupe. Et la route sera longue avant l'Euro 2020, comme en a convenu Didier Deschamps, qui n'est toujours pas revenu de cette débâcle. Prochain match, a priori plus facile, mardi soir en Andorre. Attention à ne pas se faire endormir. Ce qui n'arrivera pas à Nadal, à Roland-Garros, le roi de la porte d'Auteuil en quête de son 12e titre tout à l'heure face à Dominic Thiem. Il a toujours la même rage de gagner, Nadal. Hein, Fabrice Abgral, il sera sans doute le grand favori de cette finale face au tombeur de Djokovic.
Ouais, en effet, hein. Raphaël Nadal est tout simplement invaincu en finale à Roland-Garros. Raphaël Nadal n'a perdu aucune des 11 finales qu'il a déjà disputées depuis son premier titre en 2005. Et honnêtement, personne ne le voit perdre cet après-midi, cette 12e finale. Mais dire ça aussi, c'est un petit peu sous-estimer peut-être un peu vite la valeur de Dominic Thiem. Hein. Clairement, aujourd'hui, le meilleur joueur du monde sur terre battue. Derrière Raphaël Nadal, un joueur que l'Autrichien a dominé à 4 reprises en 12 confrontations. Et à chaque fois, sur terre battue précisément, une victoire par saison depuis 2016, dont la dernière au mois d'avril à Barcelone. En revanche, à Roland-Garros, au meilleur des 5 manches, Dominic Thiem a systématiquement perdu les 3 matchs qui l'ont opposé à Nadal et à chaque fois, il n'a pas réussi à lui prendre le moindre set et notamment l'an passé en finale parce que c'est une revanche. Alors pour mesurer l'ampleur de la tâche qui attend Dominic Thiem, il convient quand même de rappeler que Nadal n'a perdu à Roland-Garros que 2 des 94 matchs qu'il a disputés et qu'en finale depuis 2005, il n'a cédé, écoutez plutôt, que 6 manches et qu'aucun de ses adversaires ne l'a poussé au cinquième set décisif. Alors si Dominic Thiem réalisait l'exploit, parce que ce serait un exploit, il deviendrait le premier Autrichien à s'imposer à Roland-Garros depuis Thomas Muster en 1995. En revanche, si Nadal l'emporte, il s'adjugera donc son 12e trophée, soit 2 fois plus de titres que Björn Borg, pourtant lui-même légende de Roland-Garros.
Fabrice Abgral, Nadal Thiem, c'est à partir de 15h. À noter que Kristina Mladenovic, qui sera la numéro 1 mondiale à partir de demain, a remporté ce matin le titre en double dames associée à la Hongroise Babos. À suivre aussi cet après-midi la deuxième demi-finale du top 14, Clermont-Lyon. Le match se joue à Bordeaux où les Toulousains ont confirmé hier leur retour au premier plan en dominant La Rochelle 20-6. Et donc les Toulousains qui ont gagné leur place en finale. Pour ceux qui passeraient du côté de Saint-Malo ce week-end, un bon plan pour ce week-end. Le Festival du Livre Étonnant Voyageur, 30e édition, des expos, des dédicaces, des cafés littéraires jusqu'à demain soir. Un endroit à éviter, bien sûr, pour ceux que la lecture, l'évasion ou les voyages n'intéressent pas. Mais Maxime Bossonnet n'en a rencontré aucun.
À chaque stand, Hervé marque un arrêt. Il tourne les pages, il inspecte les quatrièmes de couverture. Ce lecteur assidu est un habitué du festival. Le livre, c'est sa bulle au quotidien.
Pour moi, c'est être à part, en fait, par rapport à ce qu'on peut vivre autrement. Où qu'on soit, en fait, si on a un livre, quoi que ce soit qui arrive, ça aide à passer à travers, en fait.
Du côté de la science-fiction, Maël vient de dénicher une petite pépite. Lui ne lit pas beaucoup, faute de temps, mais quand il plonge dans un bouquin, c'est pour voyager.
Et c'est comme si quand tu te mettais à lire, t'étais dans une autre vie et c'est des univers créés de toutes pièces et qui te font voyager dans un monde fantastique, c'est ça, et avec des créatures, tout ça.
S'il y en a bien un qui ne lâche pas un bouquin, c'est Jérôme, 10 ans. Ce salon du livre, c'est son paradis. Roman, manga, BD, peu importe, tout ce qu'il veut, c'est s'évader.
J'aime beaucoup la créativité et l'imagination. Quand c'est une histoire, par exemple, imaginaire, où il y a plein de choses féeriques, magiques, et bah, ça me fait passer le temps et ça me fait rêver.
Jérôme est même écrivain. Il travaille d'ailleurs sur un futur roman.
Et c'est des chats qui sont la guerre et qui se partagent des territoires. J'aime aussi dessiner, du coup, des fois je raconte des histoires bande dessinée.
Peut-être que dans quelques années, Jérôme sera lui aussi présent au Salon du Livre auprès des 250 auteurs que compte le festival pour cette édition.
Festival des étonnants voyageurs à Saint-Malo jusqu'à demain soir.